Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins s'interrogent tous les jours sur la nature de l'âme, en compagnie de Tristan Grenassia, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Samuel Legendre et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation de Sensations en mouvement cette semaine Nicolas Berger, à la lecture imaginative Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son animiste Clément Daté. À 10h51, ce sera l'heure de vos retrouvailles quotidiennes des 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie, avec les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie. Géraldine qui aujourd'hui vous donnera envie de lire Les principes du droit de la guerre de Rousseau, qui viennent de paraître aux éditions Vrin. C'est le troisième temps pour nous de notre semaine consacrée à Aristote, bien nommé par Dante le maître de ceux qui savent. Alors après Pierre Pellegrin qui lundi vous a parlé de l'Organon, Francis Wolff qui hier vous a transmis ses connaissances des textes politiques d'Aristote, y compris sur la redoutable question de l'esclavage, et avant Annick Stevens qui demain se demandera ce qu'est la métaphysique aristotélicienne, c'est aujourd'hui Anne Mercker qui vient vous présenter le Traité de l'âme, un texte polémique qui tente de dépasser le dualisme platonicien en pensant la continuité du vivant à travers les différentes fonctions de l'âme. Comment unir en un même texte des considérations sur les fonctions biologiques et d'autres sur l'immortalité de l'intellect? Eh bien, Anne Mercker, professeure de philosophie à l'Université de Strasbourg, auteure d'une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, un ouvrage paru aux Belles Lettres en 2011, vient tout vous dire sur le sujet. Bonjour à vous, Anne Mercker.
Bonjour.
L'âme. J'ai dans mon cœur, j'ai sous mon front, une âme invisible est présente. Ceux qui doutent la chercheront, je la répands pour qu'on la sente. Partout scintillent les couleurs, mais d'où vient cette force en elle? Il existe un bleu dont je meurs, parce qu'il est dans les prunelles. Tous les corps offrent des contours, mais d'où vient la forme qui touche? Comment fais-tu les grands amours? Petite ligne de la bouche. Partout l'air vibre et rend des sons, mais d'où vient le délice intime que nous apportent ces frissons quand c'est une voix qui l'anime? J'ai dans mon cœur, j'ai sous mon front, une âme invisible et présente. Ceux qui doutent la chercheront, je la répands pour qu'on la sente.
Anne Mercker, le texte de l'âme d'Aristote est un texte difficile à lire, disons-le d'emblée, hein, qui demande certaines connaissances philosophiques et propres au corpus aristotélicien pour le comprendre. Et un des obstacles, peut-être que rencontre un lecteur aujourd'hui de ce texte, est que pour nous, l'âme, disons, est quelque chose soit de sentimental, soit que l'on associe à une conception judéo-chrétienne, ce qui n'a rien à voir avec la conception qu'Aristote se fait de l'âme. Un exemple, c'est le poème de Sully Prudhomme que l'on vient d'entendre, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. Sully Prudhomme, qui est le premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Et dans son poème, intitulé « L'âme », on y entend une conception extrêmement, non seulement sensible de l'âme, mais aussi sentimentale.
Oui, en effet, vous faites bien de cadrer tout de suite la spécificité aristotélicienne. Ce poème, qui est très beau, en fait, il joue sur les deux sens de la sensibilité comme faculté sensorielle et la sensibilité au sens, on va dire, de la sentimentalité. Et sans vouloir analyser un poème, enfin, c'est presque une offense qu'on fait à la poésie que de vouloir l'analyser. Mais il y a à chaque strophe, hein, l'affirmation de quelque chose qui relève d'un sens, de l'ouïe, de la vue, du toucher. Et immédiatement, au deuxième vers de chaque strophe, il y a un questionnement. Comme s'il y avait précisément un excès du sentiment, de la sentimentalité, de la sensibilité au sens-là, un excès par rapport au sensible sensoriel. Et pour nous, effectivement, l'âme, ce terme qui est devenu très désuet, hein, il faut quand même bien le dire, l'âme va chercher jusqu'au plus intime, en fait, au plus intime de la personne, dans sa sentimentalité, dont le sensoriel, en fait, ne peut pas vraiment rendre compte. Et ce poème, je le trouve très beau pour cela, hein, parce qu'il questionne vers cet excès de la sentimentalité par rapport au sensoriel, et les deux étant en réalité malgré tout unis dans la notion de sensibilité. C'est bien pour ça que dans ce poème on peut avoir les deux ensemble. Or, je crois que tout un chacun qui aura ouvert un texte d'Aristote aura pu constater que les textes d'Aristote ne sont pas très sentimentaux.
C'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, dans le poème que l'on vient d'entendre et que vous venez de commenter, on y trouve cette phrase « D'où vient la forme qui touche ?» Et c'est comme une invitation à réfléchir à ce qu'est l'âme, cette fois-ci en termes aristotéliciens, puisque, pour le dire rapidement, et vous nous expliquerez en quel sens c'est important, pour Aristote, l'âme est une forme.
L'âme est une forme, oui. Enfin, la forme qui touche dans le poème, c'est l'autre que l'âme. Hein. C'est précisément la forme qui va toucher l'âme. Et c'est vrai que par là, on peut déjà avoir un aperçu sur la noétique d'Aristote.
C'est-à-dire la noétique.
Puisque l'âme, à la fois, va être définie. Alors, si on commence à entrer dans la technicité des concepts, allons-y. L'âme va être définie par Aristote comme la forme d'un corps. En même temps, cette définition-là, elle ne va pas être possible pour la totalité des facultés de l'âme, et précisément cette faculté de l'âme particulière qui est la pensée, le nous, et ce qui donne le nom de noétique, hein, on parle de la noétique aristotélicienne, cette faculté-là de l'âme, sans être la forme du corps, elle a éminemment à voir avec les formes, mais les formes dégagées de la matière, et Aristote ira jusqu'à dire, cette fois pour le nous, pour la pensée ou l'intellect, si l'on préfère, qu'il est non pas la forme d'un corps, mais la forme de forme. Alors, pensée extrêmement énigmatique qui nous emmène tout de suite au plus difficile, mais peut-être qu'il serait bon de repartir justement pour mettre en valeur la spécificité d'Aristote. Vous l'avez indiqué dans votre présentation. L'âme dont parle Aristote, l'âme, elle concerne la totalité du vivant. Et ce qui est assez fascinant chez ce penseur, c'est précisément la capacité d'Aristote à lier dans un même traité, c'est-à-dire dans une même dans un même élan de recherche, dans un même traité, si l'on veut, à lier à la fois un questionnement sur ce qui fait du vivant un vivant, par différence avec ce qui n'est pas vivant, et en même temps de monter jusqu'à ses facultés les plus élevées de l'être humain en passant par l'animal. Et il y a à la fois une forme de continuité du vivant et de complexification progressive et de rupture qualitative. Mais rupture qualitative à partir de quelque chose qui permet de penser la continuité, et c'est la notion d'âme.
Alors, c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre. On a toutes les missions pour l'expliquer, mais ça veut dire que dans ce texte sur l'âme, Aristote se fait autant, disons, métaphysicien que biologiste ou physicien.
Absolument. Absolument. Et je me permets de faire un clin d'œil à votre émission de lundi avec Pierre Pellegrin, hein, oui, qui a souligné à juste titre qu'il y avait eu un tournant dans les études aristotéliciennes et que l'étude des traités biologiques ou sur les animaux, qui occupe, comme il l'a rappelé, le tiers des textes que nous possédons aujourd'hui d'Aristote, il y a eu un tournant qui, effectivement, ces textes permettent d'éclairer la métaphysique. Et je compléterai en disant que réciproquement, ce qui reste fascinant chez Aristote, c'est que son travail de biologiste est en même temps immédiatement un travail de métaphysicien. C'est-à-dire que la métaphysique est présente jusque dans sa considération des animaux les plus vils, les plus laids. Et il y a un très très beau passage dans les parties des animaux, au livre 1, chapitre 5, un passage qu'on peut d'ailleurs trouver à consonance un peu platonicienne, mais il y a un détournement ici de cette consonance. Et Aristote nous dit, il y a du divin même chez les êtres d'aspect les plus dégoûtants. Quand il parle d'aspect dégoûtant, je veux dire, il a étudié les larves, des choses comme ça, hein, c'est du concret. Et ce qu'il y a de beau, ce qui occupe la place de la beauté, qu'on trouve évidemment dans les êtres divins, mais qui existe aussi chez les êtres qui ne sont pas divins, c'est la cause finale. Et c'est par son travail sur la recherche causale, qui est vraiment le travail du philosophe, hein, connaître, c'est connaître par les causes, c'est connaître les principes, c'est par son travail de recherche de la causalité et spécifiquement de la causalité finale que Aristote trouve de la beauté. Pourquoi ? Parce que la fin, c'est toujours ce qui est parfaitement achevé. Donc, il présente une forme de perfection. Une perfection adaptée, adaptée à l'insecte, adaptée à la plante, etc. Donc, une perfection qui n'est pas la perfection parfaite de l'être divin, mais qui est déjà une forme de perfection et qui est donc une forme de beauté. C'est un exemple, voilà, où l'Aristote naturaliste, entre guillemets, je n'aime pas tellement d'ailleurs cette expression, l'Aristote naturaliste est immédiatement métaphysicien, si je puis dire. Et on trouve en permanence des considérations métaphysiques. Vous les trouvez, alors pour revenir au traité de l'âme, Aristote donc accorde une âme aux plantes, hein, il faut le dire clairement. Donc la question de l'âme chez Aristote n'est pas immédiatement, alors surtout ça n'est pas une question religieuse, hein, il faut que ce soit bien clair. C'est vraiment la question du principe qui est responsable, qui est cause du fait qu'un être vivant vit. La plante vit, la plante a une âme. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas question de lui accorder de l'intellection, la capacité de faire des mathématiques ou je ne sais quoi. Mais elle a une âme. Et il commence par ce type d'âme qui est le plus élémentaire. Et dans son analyse de cette âme, il la découvre comme étant en fait une faculté de se nourrir et donc une faculté de se reproduire, de croître et de dépérir. Et même dans ses considérations qui relèvent quand même vraiment du, on va dire, du biologiste, dans ses considérations, dans le traité de l'âme, au livre 2, il commence par étudier cette faculté et il nous fait immédiatement entrevoir la dimension métaphysique de la nutrition et de la génération. Si les êtres se nourrissent et se reproduisent, c'est parce que c'est la manière dont le mortel, le contingent, est capable de s'élever, en quelque sorte, de manière imparfaite, jusqu'à l'éternité.
On pourrait se demander si c'est de toute âme que doit traiter la science naturelle ou d'une âme déterminée. Car si c'est de toute âme, il n'y aura place pour aucune autre philosophie que la science naturelle. N'est-ce pas plutôt que c'est l'âme tout entière qui est principe de mouvement, ni absolument toutes ses parties, mais que le principe de la croissance est ce qui se trouve même dans les plantes, que celui de l'altération, c'est la partie sensitive de l'âme, celui du mouvement local, quelque autre partie de l'âme qui n'est pas la partie intellectuelle. Le mouvement local, en effet, est présent chez les animaux autres que les êtres humains, alors que la pensée ne l'est chez aucun. Il est donc clair qu'il ne faut pas parler de toute âme, car toute âme n'est pas nature, mais seulement une ou encore plusieurs parties de l'âme.
Dans mon système, c'est-à-dire dans notre système, que j'ai par la suite appelé le naturalisme, qui s'est mis en place à partir, disons, du XVIIe siècle, considère que seuls les humains ont le privilège de l'intériorité, de l'esprit, ils communiquent, ils ont la capacité symbolique, ils ont bien sûr le langage qui permet de l'exprimer. En revanche, du point de vue de leur corps, de leur dimension physique, ils sont un élément d'un continuum général qui est soumis aux grandes lois de la nature, de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Les Hatcheurs faisaient exactement l'inverse. Les Hatcheurs disaient: la plupart des non-humains ont une intériorité, une capacité subjective, peuvent avoir un point de vue sur le monde, et donc ils ont le même type d'intériorité que les humains. En revanche, chaque classe d'êtres, distinguée par un corps, par une apparence physique, a des dispositions qui lui sont propres, et peut, de ce fait, avoir accès à un monde particulier, qui est comme le monde qui est branché sur ses atouts biologiques. Donc cette inversion dans la façon de lire des discontinuités entre la nature et la culture me dit, après tout, il n'y a pas de nature et de culture, il y a simplement des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains, mais elles ne passent pas au même endroit.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Vendrette.
Anne Marker, c'est une question qui se pose lorsqu'on vous écoute parler d'Aristote et de l'âme, lorsqu'on entend le texte, l'extrait de Partie des animaux que j'ai lu, puis ensuite, c'était Philippe Descola que l'on a entendu qui faisait la distinction entre le naturalisme et l'animisme. En effet, si l'âme est la nature, s'il y a une continuité que vous avez pointée entre ce qu'on appellerait aujourd'hui le végétal, l'animal et l'humain. Alors qu'en est-il de la spécificité de l'être humain dans cette nature? Faut-il appliquer les mêmes catégories à la nature en entier? Ou l'âme est-elle particulière au sein de ce que nous appelons l'être humain?
Alors, l'âme existe chez tous les vivants. Donc, si on parle simplement de manière générale de l'âme, pour répondre au titre de votre émission, non, l'âme n'est certainement pas le propre de l'être humain. En revanche, il y a plusieurs facultés dans l'âme, et donc ça donne plusieurs types d'âmes, et Aristote pense ces âmes sous la forme d'une série. C'est un grand apport, je trouve, de sa pensée qui est tout à fait remarquable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne donne pas une définition pleinement constituée de l'âme, c'est-à-dire sous forme de genre et différences spécifiques. En effet, Aristote a remarqué que l'antérieur... Excusez-moi, je vais reprendre plus simplement. Il y a chez certains types de vivants des facultés qui ne peuvent pas être séparées et d'autres qui peuvent être séparées. En clair, il y a chez la plante une âme végétative qui assure donc la nutrition, la croissance, la reproduction et le dépérissement, puisque chaque être vivant a un temps bien déterminé et l'âme est aussi responsable du fait que l'âme dépérit, que l'être vivant dépérit à un moment et pas à un autre. Un chêne peut vivre 100 ans ou plus, un papillon va vivre très peu de temps. Ça, c'est aussi l'âme qui le fait. Cette faculté, cette âme donc, qui est déjà une âme pleinement constituée, à part entière, peut se trouver chez la plante seule. Maintenant, si l'on passe à l'animal, on trouvera chez l'animal une faculté sensorielle. Et la spécificité de l'animal, enfin là où commence l'animal, ou encore autrement dit ce qui fait l'animal, c'est la sensation. La vie animale est une vie sensorielle, mais on ne trouvera jamais une âme sensorielle sans qu'il y ait d'abord la faculté végétative. On peut trouver la faculté ou l'âme des plantes.
C'est comme un emboîtement en fait. Hein,
comme des poupées russes, voilà. Exactement. C'est sous le modèle de la série. Ce qui veut dire, ce qui est particulièrement fascinant, je trouve, c'est que paradoxalement, l'animal assume en lui une plante. L'animal, si je voulais définir l'animal, comme on dit, l'être humain, la définition d'ailleurs n'est pas aussi stricte chez Aristote, mais l'être humain est un animal doué de logos, je prends l'animal, j'ajoute le logos, je pourrais dire l'animal, c'est une plante douée de sensations. Je pourrais le dire comme ça. Et donc l'animal est aussi une plante. Et Aristote remarque qu'au moment de la vie embryonnaire, tous les animaux ont une vie végétative. Les sensations sont extrêmement faibles au moment de la vie embryonnaire. Et en revanche, la croissance est extrêmement forte à ce moment-là. Donc finalement, l'animal commence par être une plante. Alors maintenant, si nous passons à l'être humain. L'être humain est un animal, on est bien d'accord.
Et une plante, du coup.
Et voilà. L'être humain assume en même temps en lui ce qui fait que la plante vit et ce qui fait que l'animal est animal, mais il ajoute quelque chose, et le terme d'ajout n'est pas bon, je vais le corriger immédiatement. Il va ajouter, donc chez l'animal on trouve la faculté sensorielle, Aristote nous dit s'il y a de la sensation, il y a la sensation de ce qui est plaisant, de ce qui produit du plaisir, de ce qui produit du déplaisir, donc il y a du désir. Hein. Tout ça est un package, hein, quelque chose qui marche ensemble, et donc la sensation fait qu'il y a aussi une faculté désirante chez l'animal, et s'il y a des organes de locomotion, alors il y a une faculté motrice, qui est l'association de la faculté désirante avec une faculté de représentation, la sensation ou l'imagination, qui permet à l'animal de se représenter l'objet ou de voir ou de sentir l'objet et de se mettre en mouvement vers lui parce qu'il le désire. Donc l'être humain a tout cela, et ce qu'il a en plus, et c'est là que commence en apparence, je me permets de le dire, en apparence sa spécificité, c'est la faculté intellectuelle. Nous avons parlé là depuis le début de pensée, il faut être bien au clair sur le fait que la pensée dont il est question, c'est la pensée au sens le plus élevé du terme, la pensée en tant qu'elle a accès au vrai, la pensée en tant qu'elle est intellection. Aristote ne dénie pas une forme de conscience aux animaux au sens le plus simple du terme. Sentir, c'est toujours sentir qu'on sent. Il y a toujours une forme de perception, de conscience au sens le plus élémentaire. Donc l'être humain, L'être humain, ben, il assume la plante en lui, il assume l'animal en lui et il ajoute cette faculté intellective qui l'ouvre à la vérité, qui est une faculté des principes, une faculté de la causalité, une faculté qui lui permet de s'interroger sur le principe du monde, sur ses propres, le propre principe de ses actions, etc. Mais l'être humain, donc, paradoxalement, pour réaliser sa spécificité, il doit, ça ce sont mes termes évidemment, ne trouve pas tel quel chez Aristote, mais il doit en quelque sorte surmonter la plante qui est en lui, surmonter l'animal qui est en lui. La plante chez l'être humain, elle occupe une part beaucoup plus importante que ce qu'on peut croire. Les débuts de notre vie, c'est une vie extrêmement végétative. L'embryon, embryon en grec, bruo, ça veut dire justement végéter, croître. Et cet bruissement, enfin ce fourmillement de végétation hein, qui s'exprime dans le grec bruo. Hein. Et même quand nous dormons, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Aristote définit le sommeil, c'est très passionnant. Il définit le sommeil comme étant une entrave de la sensation. Or, précisément, la sensation définit l'animalité. Donc, si la sensation est entravée, c'est précisément l'activité animale en l'être humain ou en l'animal lui-même qui est entravée et il y a une sorte de reflux vers une vie végétative. Dans le sommeil, nous refluons en partie, hein, il y a des rêves, il y a plein de choses, mais nous refluons en partie vers une vie végétative. Et pareil pour l'animalité, en quelque sorte, l'animalité qui est en nous, elle peut se manifester à chaque instant. À chaque instant, dans une réaction purement impulsive. Et elle peut aller, et ça n'est pas de la pure animalité d'ailleurs, jusqu'à la bestialité. Et en réalité, dans cet ajout qu'est la faculté intellectuelle, il y a plus qu'un ajout.
C'est la question, c'est est-ce que la nature fait un saut? C'est-à-dire que tout d'un coup, sans que l'on puisse savoir pourquoi, sans invoquer, disons, une intervention divine, il y aurait une spécificité de l'homme, l'intellect, d'où naîtrait l'intellect, cette âme spécifiquement humaine? Ou bien est-ce qu'il faut comprendre ce qui fait le propre de l'homme comme étant la continuité de la nature elle-même que vous venez de décrire, dans auquel cas on serait dans une forme d'animisme, pour rebondir sur l'extrait de Philippe Descola?
Oui, alors continuité et rupture en réalité. On peut voir une forme de continuité quand on considère l'intellect dans sa dimension pratique. Dans sa dimension pratique, dans le fond, l'intellect pourrait être considéré comme n'étant rien de plus qu'une faculté de représentation améliorée et une faculté calculative qui permet à ce qui est chez l'animal un simple mouvement, un mouvement qui est en quelque sorte provoqué de manière pas totalement mécanique, mais en apparence mécanique, provoquée par un stimulus extérieur, chez l'être humain, ça devient plus qu'un mouvement, ça devient une vraie action, parce qu'il est capable de penser le but de son mouvement comme but et de calculer les moyens d'atteindre ce but. À ce moment-là, le mouvement n'est plus un simple mouvement, on va dire impulsif, mais un vrai mouvement actif, un mouvement d'action, où l'être humain est beaucoup plus agent dans la manière dont il poursuit la fin recherchée, parce qu'il l'assume comme une fin, alors que l'animal poursuit aussi une fin. Mais l'animal ne pense pas la fin comme fin, donc il n'assume pas cette fin comme telle et il reste à un niveau du mouvement. Donc si je considère chez Aristote l'intellect, cette pensée très intellectuelle hein, qui calcule des causes, qui est capable de penser le principe comme principe, le but comme but, etc., à ce moment-là, dans le fond, il n'y a pas tant de rupture que ça. Il y a une différence qualitative, mais il n'y a pas tant que ça une rupture. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intellect pratique s'il n'y a pas de corps. Donc rien que là, on a la continuité.
Il y a une continuité totale entre le corps et l'âme.
Il y a une continuité. L'intellect pratique ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas un corps à mouvoir, parce que malgré tout, l'action, dans sa subtilité, reste un mouvement. Et un mouvement, c'est un mouvement d'un corps.
Bon, là, on est quand même à milieu de ce que Platon avait écrit avant Aristote, hein. Faut préciser quand même que là ici, tout ce que vous êtes en train de dire sur le rôle de l'âme, enfin sur la nature du lien entre l'âme et le corps chez Aristote, semble, à vous écouter en tout cas, parce que je sais que c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour ça que je vous propose d'en parler aussi, d'en dire deux mots, vraiment opposé en tout point à la pensée platonicienne qui, lui, dans de nombreux textes, y compris dans La République par exemple, au livre 10, montre bien comment l'âme est venue, migre, vient dans un corps et le fait d'incarner un corps devient une forme de déchéance.
Absolument. Dans cette perspective très éthique, hein, en fait, de Platon, toute la réflexion de Platon sur l'âme, en fait, c'est pas une perspective naturaliste, hein, c'est une perspective.
Ça, c'est une grande différence entre les deux également.
Et effectivement, la rupture a été voulue par Aristote, et on va pouvoir dire après, en parlant de la noétique et de cet intellect qui n'est plus l'intellect pratique, dans sa fonction pratique, Aristote a vraiment voulu la rupture. L'a-t-il réussi jusqu'au bout? C'est une autre question. Il a voulu la rupture quand il a défini l'âme. Alors, je n'ai encore pas lancé ce qui n'est donc pas exactement une définition, mais une formule générale de l'âme. Mais je crois que je vais le faire.
Alors, hein, allez-y, à 10h25, on peut fournir une définition.
Elle a
de
quoi
l'âme.
Faire peur à tout le monde. Il a pensé l'âme comme étant l'entéléchie première d'un corps naturel doué d'organes.
Explication de phrase, Anne Mercœur.
Alors, quand j'explique cette phrase, cette formule à mes étudiants, je dis il faut toujours savoir naviguer dans l'obscurité. Il y a toujours du clair quelque part. Il y a ici quelque chose de très clair, c'est que l'âme est quelque chose du corps. Alors après, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'entéléchie première. Et c'est aussi bien qu'on ne comprenne pas, parce que le terme entéléchie, même en grec, c'est un barbarisme, c'est un truc horrible. C'est complètement forgé par Aristote, c'est un terme ultra technique. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il vaut mieux ne pas traduire entéléchie, par exemple, par réalisation, qui donne l'impression qu'on comprend, alors qu'il vaut mieux savoir
maintenir
qu'on ne sait pas.
Maintenir le mystère de
Voilà, il vaut mieux savoir qu'on ne sait pas, plutôt que de croire qu'on comprend quand on ne comprend pas. Mais ce qui est clair et absolument limpide, c'est que l'âme est pensée par Aristote comme quelque chose du corps. Je disais tout à l'heure la forme du corps. Maintenant, la forme au sens de la forme essentielle, certainement pas la figure, pas cette forme que l'on peut tracer par un dessin, mais la forme essentielle qui touche à l'essence même du corps et donc de l'âme. Maintenant, entéléchie première, c'est-à-dire c'est un point d'aboutissement. Dans entéléchie, il y a telos, et l'entelekeia, c'est l'état de ce qui a atteint sa fin. Donc une certaine détermination. En clair, pour avoir une âme, il faut d'abord un corps. Quand je dis d'abord, ça n'a pas de sens chronologique. C'est le d'abord par rapport au processus de la compréhension de la chose. Il faut d'abord un corps, il faut que ce corps soit naturel. Les corps artificiels ne sont pas vivants. Un corps naturel, c'est un corps qui a en lui-même le principe de son mouvement. Et il faut non seulement qu'il soit naturel, mais qu'il ait des organes, qu'il soit organique. Et à mon avis, à mon sens, c'est comme ça que personnellement je comprends cette formule très difficile, la clé est dans la notion d'organon. Parce que dans organon, vous avez ergon. Qu'est-ce que c'est qu'un organe? C'est quelque chose qui est une détermination très aboutie du corps, mais cette détermination aboutie est un nouveau point de départ, une nouvelle ouverture vers l'horizon nouveau qu'est l'effectuation d'un ergon, l'effectuation d'une fonction. Et donc, il y a un moment de complexification de la matière qui atteint une forme de perfection. L'œil est un organe d'une perfection extraordinaire. Et cette perfection est telle qu'elle n'est pas close en elle-même, mais l'œil nous ouvre vers une nouvelle potentialité qui peut être actualisée. Eh bien, l'âme, c'est ça. C'est ce niveau-là de l'atteinte d'une perfection dans la détermination de la matière, où on atteint une complexité déjà extrêmement grande, et cette complexité est l'ouverture vers une actualisation d'une nouvelle potentialité. L'âme est cette potentialité venant d'un achèvement antérieur. Et donc je reviens à entéléchie première. L'entéléchie, c'est l'achèvement, et première, ça indique cette ouverture vers une potentialité.
C'est QFD, c'est limpide, Anne Mercœur, la professeure que vous êtes, enfin, doit beaucoup réjouir ses étudiants de Strasbourg. Alors je vous propose qu'on écoute, maintenant que vous avez proposé cette définition de l'âme selon Aristote, que vous l'avez expliqué, on est en mesure de comprendre l'extrait du chapitre 4 du livre 1 de l'âme, dans lequel Aristote explique que l'âme peut être considérée comme le principe du mouvement d'un être vivant. Mais est-ce que ça signifie que l'âme elle-même serait un mouvement? C'est la question qu'on se posera ensuite. Écoutez.
Nous disons que l'âme éprouve tristesse et joie, audace et crainte, et aussi qu'elle se met en colère, qu'elle sent, qu'elle pense. Or tout cela, de la vie générale, ce sont des mouvements. Par suite, on pourrait être d'avis que l'âme est mue, mais la conséquence n'est pas nécessaire. Puisque, en effet, tristesse, joie, pensée sont sans contredit des mouvements, que chacun d'eux est mouvement subi, le mouvement est alors l'effet de l'âme. Ainsi la colère ou la crainte sont-elles mouvements du cœur, et la pensée pourrait être ou ce même mouvement ou quelque autre. Dès lors, dire que l'âme est en colère reviendrait à peu près à dire que c'est l'âme qui tisse ou qui bâtit. Mieux vaut peut-être alors dire non pas que l'âme s'apitoie ou apprend ou pense, mais que c'est l'homme par son âme. Voulant dire par là, non pas que le mouvement est dans l'âme, mais que tantôt il va jusqu'à l'âme, tantôt il en provient.
Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes. Le bruit de tes cris maintenant, tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps, tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes, et je reste de glace, méfiante, prudente, tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends.
Le mouvement de la colère de l'âme de Barbara en écho au chapitre 4 du premier livre de l'âme d'Aristote. Vous êtes sur France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h31. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à Aristote. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir la philosophe Anne Mercker, qui enseigne la philosophie à l'Université de Strasbourg et à qui l'on doit notamment un ouvrage intitulé « Une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote », publié aux éditions des Belles Lettres et qui vient aujourd'hui nous proposer sa lecture du traité de l'âme d'Aristote.
Démente, mais lente, je me déplace lentement, mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents, ma bouche si douce grâce à la feuille et les serpents, la folie, la furie, je hurle vengeance, je n'épargnerai rien à temps. La terre s'ouvre, s'ouvre, c'est fini, c'est fini. Je ne veux plus de loup, va-t'en.
La question que pose ce texte, Anne Mercker, qu'on vient d'entendre, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, en insistant sur le mouvement de l'âme, savoir qu'à la fois l'âme est mue et qu'en même temps qu'elle-même met en mouvement avec l'examen de certains affects, la tristesse, la joie, la colère, nous dit Aristote, et celle de savoir d'où vient ce mouvement-là. Est-ce que l'âme est l'origine du mouvement du corps, auquel cas on retombe dans une forme de dualisme avec l'âme d'un côté et le corps de l'autre, ou bien est-ce que l'âme est déjà elle-même en mouvement? Mais alors, dans ce cas, d'où vient ce mouvement? C'est-à-dire qu'il y a une cause antérieure à l'âme elle-même.
Alors, précisément, il refuse que l'âme soit elle-même en mouvement. Ça, il le refuse, et c'est précisément la grande rupture avec Platon. Toute la pensée platonicienne, on retient de Platon le côté fixiste, immobiliste. C'est vrai pour les formes platoniciennes, mais toute la pensée de l'âme, en revanche, est une pensée faite de mobilité. L'âme est constituée de mouvement, l'âme est en progression, l'âme est sans cesse du mouvement. Aristote a rompu donc avec cela en faisant de l'âme non pas un mouvement, mais une forme d'un corps. Or, une forme, ça ne se meut pas. Voilà, une forme, c'est immobile. Et là, c'est aussi l'héritage, dans le fond, c'est l'héritage platonicien d'Aristote.
Et c'est sa forme, il faut bien l'entendre, parce que aujourd'hui, forme, on entend autre chose que ce que Aristote
figure,
met dans ce terme.
Oui, on entend voilà. Forme au sens de la figure, c'est-à-dire ce que je peux voir ou toucher, ce dont je peux faire un dessin. En grec, on le dirait schéma, un schéma. Ouais. Et Aristote distingue l'eidos, la forme, et dont il hérite la notion, en réalité, de Platon, c'est-à-dire la forme essentielle.
Ce qui s'oppose à la matière chez Aristote.
Exactement, hein. Ouais. Exactement. exactement, ce qui s'oppose à la matière. Enfin, ce qui s'oppose, ce qui entre dans un couple duel, duel avec la matière, mais duel plus au sens d'un dualisme, précisément. Et c'est toute la subtilité de la chose. Mmh. Et donc, sur l'âme, pour faire la boucle avec ce que vous disiez sur Platon, en fait, en apparence, chez Platon, les choses sont très simples parce qu'on a une entité qui est l'âme, une entité qui est le corps. Donc, c'est assez clair, même si c'est en réalité plus complexe que ça. Mais Aristote a voulu dépasser cela en faisant de l'âme la forme du corps. À ce moment-là, on n'a pas la forme séparée et le corps comme matière qui est séparé. C'est ce dualisme qui n'en est pas un, de la forme et de la matière. Et donc, la forme elle-même, la forme donc, encore une fois, comme entéléchie première du corps, vous voyez, c'est extrêmement abstrait, donc il n'est pas question de dire que l'entéléchie première se bouge, enfin, elle ne bouge pas. Mm-hmm. L'entéléchie première, elle ne bouge pas, elle n'a pas en elle-même de grandeur. Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est l'âme qui est mue, c'est-à-dire, si vous préférez, émue, qui est émue dans la colère, hein, l'émotion est une motion, l'émotion est un mouvement, est-ce que c'est l'âme qui est émue? Et Aristote va dire, c'est une manière impropre de parler, puisqu'à ce moment-là, autant dire que c'est l'âme qui tisse, c'est l'âme qui...
qui tisse et bâtit, là, dans le métaphore,
bâtit des maisons, ouais. Etc. Non, c'est le composé des deux qui est ému, qui est en colère par l'âme. Donc l'âme est quand même le principe. L'âme est le principe et on en revient toujours là. Il faut expliquer, il faut trouver un principe qui fait la différence entre quelque chose qui n'est pas vivant et quelque chose qui est vivant. Je peux avoir un corps d'être humain en bois, en marbre, il n'est pas vivant, quelle est la différence? Il n'a pas d'âme. Voilà. Il n'a pas d'âme, donc c'est quand même bien, et il ne se mettra pas en colère. Donc quand un être vivant, comme un être humain, se met en colère, c'est bien l'âme qui en est responsable. Et pour autant, c'est l'âme qui est responsable, mais elle-même ne pâtit pas à la manière du corps, de ce mouvement. Et la phrase qui peut paraître un peu énigmatique, le mouvement soit part de l'âme, soit parvient jusqu'à l'âme, on pourrait donner, c'est un peu la piste, une des deux pistes que vous lanciez, on pourrait donner un sens platonicien à cette phrase, et ce serait un contresens. Effectivement, chez Platon, l'âme est la source du mouvement parce qu'elle est elle-même en mouvement. Donc elle impulse au corps son mouvement parce qu'elle-même est en mouvement. Ou inversement, l'âme reçoit le mouvement, par exemple des sensations. Platon explique toute la sensation par du mouvement qui provient du mouvement des choses extérieures via les organes corporels et qui parviennent à l'intérieur du corps jusqu'à l'âme et qui perturbent son mouvement propre. Mais ça n'est pas en ce sens que Aristote le pense, c'est-à-dire il maintient que l'âme en elle-même n'est pas mouvement et n'est pas en mouvement. Elle n'est ni mouvement ni en mouvement. En revanche, dans son union indéfectible, comme l'empreinte dans la cire, vous ne pouvez pas séparer l'empreinte de la cire, ben, l'âme est dans le corps comme l'empreinte dans la cire. Vous ne pouvez pas les séparer. Donc c'est quand même bien par l'âme que je m'échauffe, je me mets en colère. Donc il y a du mouvement, mais si je n'avais pas de corps, il n'y aurait pas d'échauffement, il n'y aurait pas de colère.
Mais donc d'où vient le mouvement ?
De l'âme. Il vient de l'âme. Et il y a deux types de mouvements, plusieurs types de mouvements, des mouvements qui sont en réalité pas exactement des mouvements, mais des altérations de la faculté sensorielle. Et s'il n'y avait pas d'âme, il n'y aurait pas cette altération-là. Pour qu'il y ait cette altération-là, ce mouvement, il faut une âme, mais il faut aussi le sensible à l'extérieur. Donc, en quelque sorte, le mouvement, ça devient complexe, hein, mais il vient à la fois de l'âme, mais il vient dans un acte commun entre l'âme sensorielle et le sensible. Autre exemple, autre cas, la faculté motrice. Il est clair que le mouvement vient du désir, donc vient de l'âme. Mais là encore, il n'y a pas de désir s'il n'y a pas du désirable. Donc il faut un objet. Il faut un objet au moins représenté. Donc il y a au moins une représentation, laquelle, à un moment ou à un autre, a son origine dans l'extériorité. Donc vraiment, Aristote a cette pensée extrêmement complexe, à la fois de ne pas scinder l'âme et le corps, c'est ça qui fait toute la difficulté de sa pensée, et en même temps de penser la totalité du vivant avec son âme et son corps et de l'objet extérieur sans lequel il ne se passe rien. S'il n'y a pas insensible, on ne sent pas. S'il n'y a pas indésirable, on ne désire pas. Il faut que ce désirable soit apparaisse par la sensation, soit apparaisse par la représentation imaginative qui, à un moment ou à un autre, a pris sa source dans la sensation. Mais il reste la question de l'intellect théorique.
Voilà, alors j'allais vous dire, les choses sont déjà bien compliquées, mais en même temps assez claires. Je crois qu'on peut se représenter assez simplement cette espèce de dialectique, le terme est impropre, mais qui fait qu'on ne peut pas savoir, enfin l'âme est en mouvement, en même temps elle ne peut pas se passer du corps lui-même, qui a comme un jeu de va-et-vient qui produit le mouvement, dans une continuité avec le monde végétal et animal. Là, ce serait à peu près clair, mais les choses se compliquent encore plus dans De l'âme quand on arrive au livre 3, en particulier le chapitre 5. C'est un texte qu'on va écouter tout de suite, qui est difficile à lire, qui est rendu plus clair par Jean-Luc Jacopin, vous allez le voir, mais qui a surtout ouvert des débats et des polémiques sans fin par les lectures ultérieures qui ont été faites de ce texte, notamment au Moyen-Âge et ensuite, y compris jusque dans la modernité. Alors, on l'écoute tout de suite, c'est le chapitre 5 du livre 3 de l'âme.
Puisque de même que dans la nature tout entière, il y a quelque chose qui est pour chaque genre, d'une part la matière, c'est ce qui est en puissance toutes ces choses, et d'autre part la cause, c'est-à-dire l'agent, du fait qu'il est capable de les produire toutes, comme l'art se comporte vis-à-vis de la matière, il est nécessaire que dans l'âme aussi se trouvent ces différences. Et de fait, il y a d'une part l'intelligence dont le caractère est tel qu'elle devient toute chose, d'autre part celle qui a pour caractère de produire toute chose. Elle est comme une sorte d'état semblable à la lumière. D'une certaine façon, en effet, la lumière fait des couleurs en puissance, des couleurs en acte. Et cette intelligence est séparée, sans mélange, impassible, puisqu'elle est par sa substance en acte. Toujours, en effet, l'agent est supérieur au patient et le principe à la matière. Mais il n'est pas vrai que l'intelligence tantôt exerce l'acte d'intellection et tantôt ne l'exerce pas. C'est seulement lorsqu'elle est séparée qu'elle est précisément ce qu'elle est vraiment. Et elle seule est immortelle et éternelle.
Alors, le piano de Keith Jarrett, hein, Body and Soul, c'est histoire de dire, détendez-vous, vous allez comprendre ce texte. Anne Mercier est là pour vous sauver. Parce que quand même, ce qu'on vient d'y entendre, c'est l'affirmation d'Aristote selon laquelle l'homme est séparé, peut être séparé du corps. Une intelligence est séparée sans mélange, impassible, puisqu'elle est par sa substance en acte. Alors, dites-nous, ici, qu'est-ce qui est important, c'est la distinction entre la puissance et l'acte, qui permet de rendre compte de l'affirmation d'Aristote selon laquelle l'âme serait séparée alors qu'on vient de dire qu'elle s'inscrivait dans une continuité parfaite.
C'est vraiment toute la difficulté et toute la profondeur de la noétique aristotélicienne. On appelle ça la noétique de nous, qui veut dire qu'on traduit soit par intelligence, intellect, moi j'ai tendance à dire pensée, mais disons intellect avec la tradition. Et cette noétique, effectivement, est assez complexe pour la raison que, précisément, après avoir fortement insisté pour penser l'âme comme quelque chose du corps, Aristote, qui a d'ailleurs réservé la possibilité depuis le début, essaye de savoir s'il y a quelque chose en l'être humain qui est séparable du corps, à savoir l'intellect. L'intellect dans sa pure faculté théorique, dans son pur exercice théorique de contemplation de ce qui n'est que intelligible et qui alors là ne relève plus du tout de l'action humaine, de la vie quotidienne, etc. Et qui n'a effectivement peut-être plus besoin du corps et qui peut-être n'a plus de relation avec le corps. Donc vous voyez l'enjeu et le texte est horriblement allusif, laconique, avec des accidents de manuscrits. Enfin, c'est vraiment terrible comme endroit. Et pour essayer d'en dire deux, trois choses claires, je vais commencer par la fin de l'extrait. Cette histoire d'éternité, donc il dit, s'il y a quelque chose, la seule chose qui soit éternelle, c'est cet intellect agent, je vais revenir sur la distinction entre agent et patient, mais un intellect éternel, immortel, etc. Il faut prendre garde à ne pas projeter ici une perspective religieuse de salut de l'âme, d'immortalité de l'âme, Pour autant que Aristote nous dise ici qu'il y a quelque chose dans chaque individu humain qui est immortel, cette chose-là, qui serait donc l'intellect dans sa version purement active, cette chose-là n'a pas de dimension éthique. Il faut que ce soit bien clair. Elle n'a pas de dimension personnelle. Personnelle au sens de la personnalité. Au mieux, c'est un intellect individuel. Individuel, mais pas personnel, qui n'a pas engrangé toute l'histoire personnelle, les actions, les bonnes actions, les mauvaises actions de l'individu, etc. Ce qui fait, là encore, effectivement, la très grande différence avec Platon. Platon pense le nous, c'est-à-dire l'intellect, comme étant l'origine de l'être humain, une origine d'ailleurs qui est divine en elle-même, qui n'est pas humaine, et comme ayant une histoire. Le nous, l'intellect platonicien, a une histoire avant de s'incarner dans le corps, pendant qu'il s'incarne dans le corps, et ensuite une fois qu'il quitte le corps. Il a cette historicité. Le nous aristotélicien, dont Aristote envisage l'éternité, n'a pas d'histoire en quelque sorte. Il n'a pas la mémoire de ses actions dans une vie qui aurait été une vie incarnée. Donc ça, c'est la première chose. Je pourrais développer, mais ce serait peut-être un petit peu long, sur le fait que l'éthique n'existe pas s'il n'y a pas une relation entre du désir, une faculté désirante, et une faculté intellectuelle. Si l'intellect est complètement séparé du reste, il n'y a pas plus de relation. Voilà, il n'y a plus
donc
de désir.
Donc il n'y a que de l'intellect, donc il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a plus que de l'acte, voilà, etc. Donc il n'y a plus de dimension éthique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Aristote, dès le début, se demande « Mais alors, cette pensée, qui est la faculté la plus fascinante chez l'être humain, hein, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui, la philosophie, c'est l'activité même de la pensée. Et c'est malgré tout ce qui nous meut de manière la plus haute. S'il y a donc cette faculté supérieure chez l'être humain, elle peut se séparer du corps, se séparer du reste de l'activité du corps, comment se sépare-t-elle? Est-ce qu'elle se sépare simplement, Aristote dit, logo, c'est-à-dire par, je peux rationnellement, par un énoncé, je peux le penser comme séparé, ou est-ce qu'elle se sépare même en grandeur, c'est-à-dire, je dirais en termes modernes, réellement ou localement? Et c'est la question que pose Aristote. Est-ce que c'est en quelque sorte juste une manière de voir que de dire l'intellect,
voilà,
la
est-ce
pensée...
Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est une réalité physique?
On va dire en gros comme ça, pour simplifier. Est-ce que c'est une réalité physique ou pas? Mais le problème que rencontre Aristote, qui n'apparaît pas dans ces lignes-là, mais que je soulève, c'est que, admettons que la pensée, là, est envisagée comme étant absolument immatérielle, absolument incorporelle, puisqu'on a distingué l'intellect patient, qui joue le rôle de matière, et puis l'intellect agent, et c'est celui-là qui serait absolument éternel. Autrement dit, c'est un pur acte de pensée. Un pur acte, il n'y a pas de potentialité, il n'y a pas de faculté, c'est de la pure pensée, absolument pure pensée. Mais une fois qu'elle est, si on la sépare du corps, comment penser qu'elle est séparée localement? Et ce qui est engagé là derrière, ça n'apparaît pas explicitement, mais c'est le problème de l'individuation. Le problème de l'individuation. Pour que quelque chose soit individué, où se fait l'individuation? La forme essentielle, par exemple l'essence de l'être humain, en elle-même, elle est générale. Elle n'est pas individuée. Et c'est la matière qui va individuer. Donc si l'intellect est totalement immatériel, qu'est-ce qu'il fait qu'il reste encore individué? Donc ça, moi, c'est une question que j'aurais à poser à Aristote.
Voilà,
si,
c'est
si
ça.
Je
moi,
sous
moi,
la main.
Celle que j'allais vous poser, c'est peut-être dans le même sens. Oui. C'est finalement, pourquoi est-ce qu'Aristote a besoin de postuler cette séparation de l'intellect?
Je crois qu'il y a un postulat originel, si je puis dire. Enfin, tout postulat a quelque chose d'originel, mais celui-là encore plus, c'est... En quelque sorte, alors je vais le dire avec des mots qui ne sont vraiment pas du tout aristotéliciens, hein, mais une forme d'émerveillement devant le caractère extraordinaire de la pensée. Voilà. De la pensée, encore une fois, pas de la simple conscience de la perception que je perçois, le fait que je sens, mais une forme d'émerveillement devant cette faculté absolument insigne à l'intérieur du règne du vivant mortel, qui est l'ouverture au vrai et l'ouverture au principe, la capacité à chercher le principe des choses. Et je dirais, cet émerveillement et cette fascination, je le vois particulièrement dans le fait que Aristote, au moment où il a besoin de remplir concrètement le concept du Dieu, Et je dis remplir concrètement le concept du Dieu, précisément parce que Dieu, le Dieu, il y arrive en tant que physicien. Il faut un premier principe au monde. Il faut un premier principe qui explique le monde. Ce premier principe, ça va être un acte pur, un acte. Et quand Aristote essaye de le remplir avec un contenu, qu'est-ce qu'il y met ? Il y met la pensée.
Il y met l'intellect. Est extrêmement optimiste, ça veut dire que l'homme aristotélicien, puisque c'est toujours un homme mortel qui n'est pas divin, a les moyens, enfin, essaie de se donner les moyens lui-même de penser le monde. Il n'a pas besoin d'invoquer l'existence de
Dieu. L'être humain essaye de penser le monde, mais de manière étonnante chez Aristote. Dans le fond, au principe du monde, il y a une pensée en acte pur, qui est le Dieu, qui n'a plus de dimension religieuse. Un Dieu absolument autarcique, donc c'est une pensée qui se pense elle-même, donc une pensée de la pensée. Et curieusement, ce qu'il y a de plus élevé chez l'être humain, c'est une pensée elle-même capable de s'ouvrir au principe du monde et de penser le Dieu qui est la pensée de la pensée.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la.
Et c'est avec l'âme des poètes de Charles Trenet que nous nous quittons, Anne Mercaire. Un grand merci à vous d'être venu nous rendre limpide de ce texte si difficile de l'âme d'Aristote. Et vous avez même terminé l'émission en faisant le lien avec celle de demain, ce premier moteur de la pensée, puisque demain nous parlerons de la métaphysique d'Aristote, physique et métaphysique, avec Annick Stevens. De vous, on peut lire, Anne Mercaire, une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres. Et puis vous préparez, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, une nouvelle traduction de l'éthique à Nicomaque.
Vous avez le droit de le dire.
Bon, qui sera publiée aux Belles Lettres dès qu'elle sera.
Aux Belles Lettres, tout à fait. J'y travaille, mais c'est un gros travail, effectivement.
Eh bien, bon courage à vous. Merci. En tout cas. Et à bientôt. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Rousseau au programme.
Rousseau paraît aux éditions Vrin, les principes du droit de la guerre. En 1965, il s'est produit un événement en tout cas pour le monde de la philosophie politique, un manuscrit inédit de Jean-Jacques Rousseau a été découvert. Et c'est justement ce manuscrit inédit que les éditions Vrin publient, grâce à Bruno Bernardi et Gabriella Silvestrini, deux spécialistes de Rousseau qui ont établi, annoté et présenté ce texte. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien le manuscrit découvert, d'une vingtaine de pages au final, est un événement parce qu'il constitue un chaînon manquant dans la pensée politique de Rousseau, plus précisément dans sa pensée de la guerre, du droit et des principes de la guerre. Jusqu'ici, en effet, cette question des relations politiques entre États chez lui avait été constituée de manière dispersée. On allait chercher des bouts d'observation à droite, à gauche, dans ses manuscrits ou dans des ouvrages déjà publiés. Mais là, avec ce manuscrit, il y a une unité matérielle qui permet de parler des principes du droit de la guerre chez Rousseau. Le point surtout avec cette trouvaille, c'est de voir comment sa pensée politique peut être vue autrement. Alors certes, Bruno Bernardi, dans un essai à la fin de l'ouvrage, précise bien que ce manuscrit n'est pas une copie mise au net, mais ce n'est pas non plus un brouillon. Et on retrouve dans ces pages le style de Rousseau, sa passion à dénoncer les méfaits de la société corruptrice qui le mène aussi à une pensée rigoureuse. Car c'est bien de ça dont il s'agit au départ pour lui avec ce manuscrit. Indigné par les guerres, la guerre de 7 ans, les multiples guerres de succession, Rousseau en propose donc une nouvelle définition à l'opposé de Hobbes. La guerre n'est pas le propre de l'homme, nous dit dit-il, mais de l'homme en société. C'est l'association des hommes qui mène à la guerre et non le contraire. On retrouve ici sa critique de la société, assez classique, mais comment alors on peut penser chez lui ensemble sa pensée du contrat social si c'est de là que naît la guerre? Eh bien, c'est un des nouveaux enjeux de la pensée de Rousseau que cet ouvrage met justement au jour.
Magnifique, merci Géraldine. Rappelez-nous le titre du livre.
C'est Les principes du droit de la guerre et c'est aux éditions Vrin.
Et c'est déjà disponible?
C'est disponible depuis 2 mois.
Eh bien, courez en librairie, vous le procurez. Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette série d'émissions consacrée à Aristote. Demain, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, je recevrai Annick Stevens qui viendra vous parler de la métaphysique d'Aristote et se demander ce qu'est la métaphysique chez Aristote. Mais d'ici là, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour. Et puis surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour.